Bonjour et bienvenue dans Onde Noire, l'émission polar la plus rock de la bande FM.
Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle saison d'Onde Noire, avec toujours nos chroniques de romans noirs, toujours plus noirs, et des interviews d'auteurs, de traducteurs, pardon, d'éditeurs, et nos chroniqueurs qui nous rejoindront bientôt. Jacques, tu entames l'année avec...
Alors pour cette première émission de la 19e saison déjà, on va retrouver deux amis méditerranéens, deux amis de papier bien sûr, qui nous suivent, à moins que ce soit nous qui les suivions, depuis bien longtemps, avec toujours autant de plaisir. Le Sicilien, depuis 1998, Salvo Montalbano, et le Marseillais, Raoul Signoret, qui est venu un peu plus tard, en 2002. Salvo Montalbano est la création d'Andrea Camilleri, vous le savez sûrement, si vous êtes fidèle, de l'émission. Quant à Raoul, il a vu le jour sous la plume de Jean Contrucci. Commençons par la Sicile. Le roman s'appelle « Nid de vipères ». Il est paru au début de l'été, aux éditions Fleuve Noir, et il est traduit par Serge Cadopani, son traducteur attitré.
Le traducteur, voilà, qui connaît si bien le commissaire Montalbano.
Voilà, et Camilleri probablement aussi. Et il commence bizarrement par un double meurtre. Mais un double meurtre commis sur la même personne.
Ah oui, c'est pour ça que c'est bizarre. C'est
voilà, bien. Cosimo Bartella. Alors, il est comptable de profession, mais en fait, il est plutôt usurieux, usurier, et usurier de la pire espèce.
C'est pour ça que tu as failli dire injurieux.
Voilà, pas étonnant qu'on veuille le tuer, mais de là à le faire deux fois, il a quelque chose qui dépasse l'entendement de Montalbano. En fait, le roman ne commence pas tout à fait comme ça. Comme dans les précédents, cela commence par Montalbano en train de rêver. Un rêve bizarre qui devrait lui donner la solution pour trouver le meurtrier, mais il ne le sait pas. Et bien sûr, ce rêve est stoppé par un coup de fil de Cattarella qui réveille Montalbano, le commissaire donc, pour lui signaler le meurtre.
Alors, faut expliquer, parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais lu. Cattarella, c'est l'homme à tout faire, assez calamiteux au commissariat, et il passe toujours des coups de fil improbables à son supérieur hiérarchique.
Voilà, et celui-là en est un, et évidemment, Montalbano n'est pas de la meilleure humeur. Mais il y a encore plus bizarre dans ce roman que les rêves ou les doubles assassinats, c'est que Salvo Montalbano a décidé de manger léger. Il s'apprête même à refuser l'entrée dans la gargote d'Enzo. Et pourtant, l'entrée, c'est des spaghettis aux moules et aux palourdes. Alors, comme en plus le temps est pluvieux, vous imaginez bien que la journée va être longue et pénible pour Montalbano.
Surtout qu'en général, c'est plutôt deux entrées qu'il prend au déjeuner.
Alors, s'il y a eu quelques épisodes, quelques romans où Camilleri s'amusait avec son personnage, mais où l'intrigue n'était pas à la hauteur, là, c'est une grande réussite. On retrouve en plus tous les ingrédients de ce minestrone sicilien. Cattarella, on en a déjà parlé. Livia, l'éternelle fiancée de Montalbano. On apprend enfin pourquoi il ne l'a pas épousée. Elle ne sait pas faire cuire les pâtes. Je vous lis un petit extrait.
Ah, c'est pas parce qu'elle est du Nord?
Non. Pas une fois, Livia n'avait réussi à cuire les pâtes comme il fallait. Dans 90% des cas, les pâtes étaient collantes, molles, de manière dégoûtante. Quant au 1% restant, elles étaient crues comme si elles venaient de sortir de l'usine. Et puis, ou bien elles étaient si salées qu'elles en devenaient amères, ou tellement fades qu'on avait l'impression d'avaler des verres. Non, il valait mieux mille fois rester le ventre vide.
Célibataire, donc.
Voilà, ce que bien sûr il ne fera pas, mais il ne mangera pas les pâtes. Il y a aussi, comme souvent, une belle jeune femme en détresse que Salvo Montalbano ne pourra s'empêcher de protéger, voire plus si affinité.
C'est aussi pour ça qu'il est resté célibataire.
Exactement. Malgré sa rigueur professionnelle, puisque cette jeune femme, c'est la fille du défunt. Il en dit, sa jupe mettait bien en évidence sa planète intérieure.
Ouais, c'est vraiment une planète.
Je vous laisse imaginer.
La planète.
Mais il y a un gros dilemme cette fois-ci. Il le dit lui-même. Parce que c'est une chose d'envoyer en tôle quelqu'un qui a tué un honnête homme, et une autre d'y expédier quelqu'un qui a tué une crapule. Par chance, Enzo mettra quelques jours plus tard des poulpes à la Stranicha Sali, et Salvo finira par entrevoir un bout de la solution. Mais alors surtout, une petite recommandation, même si vous êtes tenté de la lire, ne lisez pas avant d'avoir fini le livre la note qui est en postface du roman, vous gâcheriez complètement l'histoire et l'intrigue.
Voilà, au moins ça c'est fait.
Donc on va revenir un peu plus au nord tout en restant au sud, à Marseille, avec le roman de Jean Contrucci qui se nomme « La nuit des blouses grises ». février 1910. Cela commence comme dans un western, ou plutôt comme dans le film de Michael Crichton, La grande attaque du train d'or. Un hold-up. Des malfrats vont dérober le contenu du wagon financier. 120 kilos d'or et une montagne de bijoux. Le train 4774 est arrêté à l'entrée de Marseille par une bande en blouse grise, armée et déterminée. Il s'enfuit, bien entendu, avant l'arrivée de la maréchaussée du commissaire Baruteau. Le commissaire Baruteau, qui est l'oncle de notre petit reporter préféré, Raoul Signoret.
Oui, Raoul Signoret, qui vient depuis 12 ou 13 épisodes dans le roman
«
Des nouveaux mystères de Marseille » de Jean Cotrucci.
Exactement. La tenue qu'arborée les brigands ressemble, donc les blouses grises, ressemble fortement à celle des conducteurs de troupeaux qui menaient, du train ou du bateau, les bêtes à l'abattoir situé non loin de là. C'est une première piste, tant pour le commissaire que pour le journaliste. Un autre indice, découvert par justement Raoul Signoret, sera donné par une Turcat Méry. Une magnifique voiture, made in Marseille, la limousine Turcat Méry FM de 6 litres 9. Tout de même quand même.
6 litres 9
6 litres 9 de cylindre. Eh oui, à l'époque.
Wow,
et 25 chevaux, par contre, évidemment, le rapport poids-puissance n'était pas terrible. Leur usine se trouvait, pour l'anecdote, sur l'actuel emplacement du stade Vélodrome. Dans les aléas de l'enquête, nous survivrons difficilement à une représentation du Chanteclerc d'Edmond Rostand. Une grève des musiciens de l'opéra risque de tout faire basculer. Mais par contre, nous aurons la chance de passer un moment dans les plus beaux endroits de Marseille, que sont la Madrague de Mondredon et les Goudes. Raoul mettra à profit à fort bon escient sa longue pratique de la boxe française et son fameux revers frontal balancé qui lui sauvera la mise. Bien sûr, Jean Contrucci n'oublie pas le volet social dans son roman. Les conditions de travail dans les abattoirs ou celles des autres ouvriers des fonderies, minoteries, huileries qui s'étendent le long du port de part et d'autre de la gigantesque raffinerie de Sucre-Saint-Louis qui est toujours. Quant aux cheminots, les poussières, les escarbilles et autres particules rejetées par les locomotives ne leur permettaient hélas pas d'atteindre des âges avancés et ni de profiter de la retraite chèrement acquise.
Si tant est qu'à cette époque, ils avaient une retraite.
Voilà. Ainsi, justement, puisqu'on parle de retraite, la mauvaise nouvelle, relative mauvaise nouvelle, c'est que Eugène Baruteau va justement faire valoir ses droits à la retraite, un peu malgré lui. Et on annonce donc que cette enquête de Raoul Signoret pourrait bien être la dernière.
Mais bon, ce qui n'est pas une bonne nouvelle.
Mais bon, non, c'est pour ça que je dis que c'est une mauvaise nouvelle. Mais bon, 13 enquêtes pour un gars de Marseille, c'est quand même un nombre qui sonne plutôt bien. Jean Contrucci nous concoctera sûrement d'autres romans. Il est lu à la retraite depuis un bon moment et l'écriture semble bien lui contenir. Il n'y a donc pas de raison qu'il s'arrête.
Voilà, peut-être plus sur des souvenirs de Marseille ou des histoires autour de sa ville qu'il adore. Un petit peu de musique maintenant.
Un petit peu de musique pour introduire le livre dont tu vas parler ensuite. Donc, tu nous dis...
Pourquoi pas. Pour une fois que c'est moi qui annonce la musique, volontiers. Donc, c'est un groupe mythique des années 90. C'est le groupe Nirvana. Et quand on prononce mythique et Nirvana, en général, on pense au titre que l'on va écouter. J'en reparle juste après. We'll be right back. On vient donc d'écouter Nirvana, vous aurez certainement reconnu le titre. Ce titre, c'est « Smells Like Teen Spirit ». En français, « Il sent comme un adolescent ». Et des adolescents, il va y en avoir dans le roman dont je vais vous parler maintenant, dernier roman de Nicolas Mathieu, qui vient de paraître aux éditions Actes Sud. Ce roman s'appelle « Leurs enfants après eux ». Tout va se passer sur une période de 7 ans, de l'été 1992 à l'été 98, autour d'un lac. Un lac qui aura beaucoup d'importance. Un lac, c'est calme, c'est presque mort. Comme la vallée où vivent quelques ados qui n'ont qu'une envie, fuir, fuir. Fuir cette région, l'est de la France. Une vallée, comme dit l'auteur, en soins palliatifs. Sinistrée par le chômage, les usines ont fermé, l'horizon est complètement bouché. Parmi ces jeunes, on a Anthony. Lui, il a 14 ans, 1992, et pour tout dire, il s'emmerde. Et cet été-là, il songe à foutre le camp, parce que, je cite, « les siens, il les trouvait finalement bien petits, par leur taille, leur situation, leurs espoirs, leur malheur même, répandus et conjoncturels. C'est pas mieux dans la famille d'un autre adolescent, Assigne, autre ado, autre environnement. » Je cite encore, au-dessus de leur tête, le ciel était pris dans la mâchoire que dessinaient les tours. Et l'été 92 commence très mal pour Assigne. D'abord, sa mob est fichue, ne peut plus se déplacer. Et puis, le trafic de bœufs, la petite herbe qui fait planer les jeunes du coin, a été démantelé. Plus de quoi en avoir, c'est un petit peu embêtant. Je reprends les paroles de Nirvana. C'est d'amusant de perdre et faire semblant. Ben ça, ça convient à tous ces mômes. Sauf que des fois, ils font pas semblant. Une nuit, en 92, Anthony va tomber amoureux de Stéphanie, une petite bourge. Et cette même nuit, Assigne vole la Yamaha YZ qu'Anthony vient d'emprunter à son père. Son père
enfin, emprunter...
Oui, oui, le père le savait pas, ils l'ont choravé, quoi, en gros. Mais Assigne, là, elle l'a volé, par contre, à Anthony. En gros, l'histoire peut commencer. Quatre étés, donc 92... 94, 96, 98, pour raconter une jeunesse qui n'y croit plus et une société en panne. Les pères y sont rebuts, exclus par le chômage qui les a laissés, incrédules et démunis au bord de la route. Les mères, elles sont flétries, racornies, aigries, aigries contre leurs hommes surtout. L'ascenseur social est en panne. Et en gros, tous ces gens-là, ce sont, dit Nicolas Mathieu, des souterrains de peines agglomérées. Alors, on s'étourdit. Le Picombière pour les aînés, le shit pour les plus jeunes. On s'abrutit de télé, de Tour de France. Et le pire, je pense, aux yeux des jeunes, on se résigne. Et on se tue à petit feu. Et puis, le temps passe, la vallée est de plus en plus corrodée. Anthony va partir, Assigne rester. Stéphanie compte sur ses études pour s'envoler. Ils s'écraseront tous. Reste à savoir comment. Comme leurs parents avant d'ailleurs. Il reste le lac, immuable, qui va certainement accueillir de nouveaux ados. de nouvelles bringues, de nouveaux rêves. En attendant, il a englouti dans ses eaux saumâtres les cadavres des illusions perdues. Pas une ride en surface. Le nouveau siècle peut démarrer. Et en plus, en 98, on va gagner la Coupe du Monde. C'est un roman magnifique. Un roman subtil, dur, qui fait mal parfois, mais une lecture indispensable. Et c'est un beau roman, aussi bien dans le fond que dans la forme. La narration qui va de 2 ans en 2 ans et qui suit ses protagonistes tous les 2 étés et qui fait imperceptiblement s'entrechoquer les destins des uns et des autres. Ces destins qui, de toute façon, on le sait depuis le départ, vont dans le mur. Et puis, il y a ces mots, ces phrases qu'il concocte, qui montrent toute la tendresse de l'auteur pour ses jeunes et les moins jeunes. Et l'expression dans ce roman « Jeune à crever » prend tout son sens. Voilà, c'est un roman de Nicolas Mathieu, c'est son 2e. Le premier date de quelques années, toujours aux éditions Actes Sud, mais dans la collection Actes Noirs. Ça s'appelait « Aux animaux la guerre ». Et je signale que dans très peu de temps, ou tout au moins 6 semaines, vous pouvez retrouver la série qui commence, tirée donc de ce livre « Aux animaux la guerre ». Et c'est mise en scène, c'est scénarisé par Nicolas Mathieu lui-même, ce qui augure de belles surprises. Voilà, je crois que c'est la fin de la première partie d'Ondes Noires. On se retrouve dans quelques minutes.